Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 28 juillet.
La Maison Bleue coupe court à la possibilité d'un quatrième sommet intercoréen. Le FMI revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour la Corée du Sud. Covid-19, nombre record de cas positifs détectés en 24 heures. Enfin, le gouvernement met en garde contre une possible bulle immobilière.
La présidence sud-coréenne a démenti l'information publiée aujourd'hui par l'agence Reuters selon laquelle les deux Corées sont en train de discuter des moyens de tenir un nouveau sommet entre leurs dirigeants. Dans un SMS envoyé aux journalistes, la porte-parole de la Chungwa-dae, Park Kyung-mi, a affirmé que l'information était erronée et qu'aucune discussion n'avait été menée sur le sujet. Hier, le premier secrétaire de la Maison Bleue à la communication avec les citoyens a annoncé que Moon Jae-in et Kim Jong-un avaient échangé depuis avril des lettres personnelles et affiché leur convergence sur la nécessité de rétablir la confiance mutuelle et de faire avancer les relations entre leurs pays. Et Park Soo-yeon a alors ajouté que dans ce cadre, Séoul et Pyongyang avaient rétabli hier leur canal de communication 13 mois après leur suspension. La restauration de cette liaison alimente les spéculations sur un quatrième tête-à-tête Moon Kim avant la fin du quinquennat du leader sud-coréen qui expirera en mai 2022. Cela dit, le palais présidentiel adopte une attitude de très grande prudence.
Dans l'actualité économique, le Fonds monétaire international est optimiste pour la croissance sud-coréenne. Dans ses dernières perspectives publiées hier, il a anticipé un rebond de 4,3% en 2021, soit 0,7 points de plus que ce qu'il avait estimé en avril. Une prévision plus élevée que celle de plusieurs autres institutions internationales. Le gouvernement de Séoul vise de son côté 4,2%. Le pronostic favorable du FMI peut s'expliquer notamment par la reprise progressive de l'activité économique sous l'effet de la hausse des exportations. Effectivement, pendant la première moitié de l'année, le pays de matin clair a vendu ses produits hors des frontières pour une valeur de plus de 300 milliards de dollars, un record historique. À cela s'ajoute la plus importante progression en 12 ans de la consommation privée, un des moteurs de croissance au second trimestre. L'institution basée à Washington a pris en compte la situation sanitaire observée jusqu'à la deuxième semaine du mois, au cours de laquelle l'épidémie de coronavirus a commencé à exploser de nouveau en Corée du Sud. Alors, certains disent qu'il est encore trop tôt pour se féliciter des prévisions optimistes du FMI. Malgré cela, celui-ci a également revu à la hausse ses perspectives de croissance du PIB sud-coréen pour l'année prochaine. Il table désormais sur un bond de 3,4% contre 2,8% attendu il y a 3 mois.
Les réactions internationales se multiplient après le rétablissement hier des canaux de communication intercoréens. Aux États-Unis, le coordinateur de l'Indo-Pacifique au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a manifesté son soutien au dialogue et à la communication entre les deux Corées. Kurt Campbell a également annoncé avoir déjà été tenu au courant de la restauration de cette liaison officielle. Cela signifie que les deux alliés se seraient échangés des informations concernant la possible reprise du dialogue Séoul Pyongyang, étant donné que depuis son investiture, l'administration de Joe Biden continue à exhorter le pays communiste à revenir à la table des négociations sans aucune condition préalable. Même son de cloche du côté du département d'État, lors d'un briefing, le ministère américain a salué un pas positif vers des efforts diplomatiques pour dénucléariser la péninsule. Le secrétaire à la Défense a lui aussi réagi. Lloyd Austin a affirmé que la porte du dialogue avec le régime de Kim Jong-un demeure ouverte. Il effectue en ce moment sa deuxième tournée asiatique. Pourtant, il est toujours incertain si la reconnexion des lignes de communication intercoréennes donnera lieu à un dialogue rapide entre les USA et le royaume ermite.
On part maintenant en Corée du Nord, où les anciens combattants de la guerre de Corée se sont retrouvés hier à Pyongyang pour un 7e rassemblement national à l'occasion du 68e anniversaire de l'armistice du conflit. Présent pour la 2e année consécutive, Kim Jong-un y a prononcé une allocution. D'après la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant a vanté la puissance des forces armées révolutionnaires du pays, affirmant que celles-ci sont tout à fait prêtes à faire face à toute éventualité et toute menace extérieur en évolution. Il n'a cependant pas mentionné cette année la puissance nucléaire de son pays. Dans son discours de l'an dernier, l'homme fort de Pyongyang a fait l'éloge d'une dissuasion nucléaire d'autodéfense digne de confiance et efficace. Par ailleurs, le numéro 1 sud-coréen a tenu à évoquer la situation liée au Covid-19. Il a précisé que les difficultés occasionnées par cette crise sanitaire d'envergure mondiale et inédite devenaient une épreuve semblable à une guerre.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Venons-en maintenant à la crise sanitaire. La Corée du Sud a enregistré un nombre record de nouveaux cas de Covid. Un total de 1896 contaminations supplémentaires ont été identifiées au cours des dernières 24 heures. Quelque 66% des 1823 infections d'origine locale ont été confirmées dans la région de Séoul. Hors de la capitale, la circulation du virus est en nette augmentation dans les grandes villes comme Busan, Daejeon et Daegu. Côté vaccination, pas moins de 17,9 millions de personnes ont reçu au moins une première dose, soit 34,9% de la population et 13,6% des habitants sont entièrement vaccinés.
L'inquiétude monte après que le laboratoire américain Moderna a annoncé au gouvernement sud-coréen le possible réajustement du calendrier des livraisons de son vaccin anti-Covid. Pourtant, le premier ministre Kim Boo-geum a tenté de rassurer les citoyens. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise ce matin, il a affirmé que la firme avait décidé de reprendre ses expéditions dès la semaine prochaine. Selon le chef du gouvernement, l'entreprise en a fait part lors d'une visioconférence de haut niveau entre elle et l'exécutif sud-coréen hier soir. Conformément à cette décision, le programme détaillé de vaccination pour le mois d'août sera finalisé et connu ce vendredi. Et le gouvernement poursuivra sa campagne de vaccination comme prévu afin d'atteindre son objectif d'immunité collective d'ici le mois de novembre.
On revient sur l'économie. Le marché du logement continue de s'emballer. Le gouvernement estime qu'en plus du déséquilibre entre l'offre et la demande, la psychologie joue elle aussi un rôle dans la flambée des prix. Dans la foulée, il a une nouvelle fois mis en garde contre les risques d'une grosse bulle immobilière. Selon l'exécutif, les prix sont actuellement à un niveau proche du plafond ou bien celui-ci a déjà été dépassé. Alors que le chiffre de l'offre est jugé relativement suffisant. En chiffre, cette année, un total de 460 000 logements neufs seront offerts dans tout le pays, dont 83 000 à Séoul, où l'envolée des prix est plus particulièrement marquée. Le vice-premier ministre de l'économie a d'emblée souligné aujourd'hui que la prudence devait être de rigueur avant de décider de l'achat d'un logement, au lieu de se fonder sur l'attente d'une nouvelle hausse. Hong Nam-gi s'est ensuite engagé à concentrer ses forces pour calmer les inquiétudes du marché en multipliant notamment l'offre. Hong, qui est aussi ministre des Finances, a alors dévoilé des mesures à cet effet. Il s'agit entre autres d'avancer les dates des souscriptions préalables des appartements actuellement en construction dans des villes nouvelles aménagées sous l'administration de Moon Jae-in. En vue de stabiliser le marché, l'opération démarrera dès demain. Le système sera appliqué aux logements construits par les promoteurs publics et privés. Autre mesure allant dans ce sens, le gouvernement achèvera au plus vite les procédures à suivre avant de lancer la construction de logements et choisira rapidement les terrains à bâtir des villes nouvelles en question. Il fera aussi en sorte de mieux contrôler les liquidités injectées dans l'achat immobilier. Pour cela, le taux de croissance des dettes des ménages sera fixé à 5 ou 6% et l'étau se resserrera sur le crédit immobilier pour empêcher toute spéculation. Le contrôle sur les irrégularités susceptibles de perturber le marché sera également durci.
Le nombre d'étrangers résidant en Corée du Sud a reculé en juin pour le 19e mois de suite dans le sillage de la pandémie de Covid-19. D'après les statistiques du service d'immigration de Corée, il s'est établi le mois dernier à 1,9 million, en baisse de 0,3% en glissement mensuel. Il s'agit du niveau le plus bas depuis décembre 2015. Le nombre de ces expatriés a atteint un pic en décembre 2019 avec 2,5 millions, avant de chuter de près de 100 000 en janvier 2020. Et ce, au début de la propagation de l'épidémie. Deux mois plus tard, il est tombé en dessous des 2 millions pour la première fois en 5 ans et 3 mois. Notamment, les séjours de court terme sont fortement déclinés. Le nombre d'étrangers qui viennent pour moins de 90 jours sans visa pour une visite courte ou le tourisme a baissé de 9,1% sur un an pour atteindre 413 000. Quant à ceux qui se sont fait délivrer une carte de résident pour séjourner sur le long terme, leur nombre a régressé de 10% à 1 090 000. À en croire un responsable du ministère de la Justice, ce phénomène est imputable à la suspension temporaire de l'entrée des étrangers démunis de titres de séjour et au renforcement de l'examen de la délivrance des passeports, et ce afin de faire barrage à l'entrée des personnes infectées par le coronavirus.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Et à présent, nous retrouvons Oh Ha-young pour les dernières nouvelles sportives en provenance de Tokyo.
Or ou argent. Dans quelques heures, nous connaîtrons la couleur de la médaille que les sabreurs sud-coréens vont remporter au Japon. L'équipe masculine, composée de Oh Sang-ho, Kubon Gil, Kim Jong-wan et Kim Juno, doivent affronter leurs adversaires italiens au Macquarie Meso, la Chiba. En début d'après-midi, au même endroit, en demi-finale, ils ont arraché la victoire face aux Allemands 45 à 42. Montés sur la plus haute marche du podium lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, les escrimeurs du pays du matin clair ne sont désormais qu'à une étape d'un second triomphe. En 2016, à Rio de Janeiro, l'épreuve de sabre par équipe n'avait pas eu lieu en raison du système de rotation par arme. Hier soir, leurs compatriotes, Chun Jung, Kang Yong-mi, Song Sera et Yehin, avaient, rappelons-le, gagné une précieuse médaille d'argent. Autre compétition que les amateurs de sport sud-coréens vont suivre de près ce soir, la finale de la gymnastique artistique, à laquelle participe Lee Jun-ho, et le match de football éliminatoire du groupe B entre la Corée du Sud et le Honduras. Et nous enchaînons avec une autre bonne nouvelle. Le nageur Hwang Sun-woo s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre masculin au JO, ce qu'aucun Sud-Coréen n'a réussi jusqu'à présent. Lors de la demi-finale du premier groupe qui s'est tenu ce matin au centre aquatique de Tokyo, il a pris la troisième place en 47 secondes 56 centièmes, renouvelant ainsi le record asiatique établi par le chinois Ning Jie-tao. Hwang est arrivé avec 0,33 secondes de retard sur l'américain Caleb Dressel, qui a pris la tête. Il s'est ainsi classé quatrième parmi 16 athlètes en lice aux demi-finales. Le jeune homme de 18 ans est un véritable pépite de la Corée du Sud. Dimanche dernier, il a déjà battu le record national et le record mondial des juniors pour sa qualification en demi-finale du 200 mètres. Il tentera de décrocher sa première médaille lors de la finale du 100 mètres nage libre demain. Et avant de vous laisser, les Sud-Coréens ont terminé à la 12e place du tournoi de rugby à 7. Ils se sont inclinés 19 à 31 face au Japon, la plus grande puissance asiatique dans ce sport, lors du match de placement qui s'est tenu ce matin au stade de Tokyo. De fait, la participation de l'équipe nationale au JO est déjà significative, en ce que c'est la première fois qu'elle a décroché son ticket pour cette compétition. En novembre 2019, lors du tournoi de qualification pour la zone Asie, elle avait remporté une victoire surprise contre les Hongkongais en renversant le match au dernier moment. Il a fallu attendre près de 100 ans après l'introduction du rugby au pays du matin clair pour que ces rugbymen puissent concourir aux JO. Pour l'heure, le pays du matin clair compte seulement 3 équipes professionnelles et 4 universitaires dans ces disciplines.
C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Yun Hae-jung et Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.